passionné de l'actualité, écoutez, écoutez-moi bien. Pour être bien informé sur tout ce qui se passe à travers le monde, tout en évitant les fake news, deux options s'offrent à vous. Radio Centreville 102.3 FM et Magazine Créole. Oui, oui, Magazine Créole, tous les dimanches à 18h sur Radio Centreville avec Robin Sénélisé et son équipe.
Youli destiné, Port-au-Prince, Haïti.
Magazine Créole, une émission conçue spécialement pour vous.
La musique au créneau, une nouvelle émission qui sera animée par Jean-Gardy Vincent sur les ondes de Radio Centreville. Laissez votre passion musicale s'exprimer chaque samedi de 4h à 6h. À partir du 10 février, préparez-vous pour une immersion totale dans l'univers des notes et des rythmes. Restez branchés sur Radio Centreville pour des moments musicaux inoubliables avec Jean-Gardy Vincent.
Today, I saw three neighbors. 17 people at the coffee shop, 26 colleagues, 35 pedestrians on the sidewalk, and 68 people at the grocery store. And right now, I'm looking at my girlfriend and son. And I've never felt so alone.
When you're not doing well, you can really feel alone, even with people around. To get help, call Info Sociale 811 or visit quebec.ca/mentalhealth. A message from the gouvernement du Québec.
L'achat d'une automobile ou d'une maison est une décision importante. Afin d'être bien conseillé et surtout bien guidé, tous les samedis de 10h à midi sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, Jean Belzé et ses collaborateurs vous informent. Parlons automobile et affaires, deux heures de conseils dans la bonne humeur. C'est un rendez-vous à ne pas rater.
Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à votre émission Finance et Culture. Nous sommes vendredi 12 avril et il est 15h. Nous sommes en direct pour vous accompagner pendant une heure et pour vous parler de finance, de philosophie et de littérature. C'est une émission conçue, préparée et présentée par Hamid Nejat, votre serviteur, et Ali Paknejad. Bonjour Ali.
Bonjour Hamid, il me fait plaisir d'être ici encore une autre semaine et de discuter des sujets chauds et intéressants.
Le plaisir est bien entendu partagé. Donc pour la mise en onde de cette émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Lysandre Duplay et qui, comme chaque semaine, va rendre la qualité de cette émission au top. Alors, donc, comme d'habitude, nous allons bien entendu parler de différentes rubriques que je viens de mentionner. Restez avec nous, nous sommes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et comme chaque semaine, nous ouvrons cette émission avec cette marche de Radetzky qui nous donne beaucoup d'énergie pour commencer et pour partager les nouvelles qui nous ont marquées pendant quelques minutes avant de commencer notre rubrique Finance et en compagnie d'Ali Paknejad, bien entendu. Alors, quoi de neuf, Ali ?
Quoi de neuf ? Je dois être honnête avec toi, Amit, je dois improviser. Je ne pensais à rien avant de venir à la radio, mais il fait une très belle journée, la température est presque chaude, à 20 degrés.
Oui, 23.
C'est 23, mon Dieu.
Avec une température ressentie qui est égale aux alentours de 26 degrés en ce moment, mais c'est la température ressentie, donc la température réelle, c'est aux alentours de 23 degrés. Bien que le ciel soit couvert et les nuages s'accumulent et qu'on ait prévu de la pluie pour ce soir, pour l'instant, on profite de cette température. Et puis, à chaque jour suffit sa peine, comme le dit bien les évangiles.
Et il faut faire attention aussi parce que j'ai entendu que la température va baisser à l'après-midi.
Oui, va un peu baisser, bien entendu. C'est pour ça que la pluie va arriver, mais nous sommes maintenant au pic de la température de cette journée. Et toi et moi, et avec Lysandre, nous avons une température très chaude dans ce studio, bien sûr.
Oui.
Nous sommes en train de souffrir, mais bon, ça fait partie du métier. Alors, de mon côté, Ali, je n'ai pas de nouvelles particulières à partager non plus. Parfois, il vaut mieux laisser de côté les nouvelles et puis aller directement à nos rubriques habituelles qui ont trouvé beaucoup de fidèles. Nous l'espérons, bien entendu, et nous espérons que ces fidèles auditeurs et auditrices augmenteront saison après saison. Nous sommes la saison 5 de notre émission et c'est l'épisode 60 aujourd'hui. Alors, donc, commençons tout de suite notre rubrique « Finances ». Je suis très curieux de voir, Ali, ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui.
Et par contre, dans cette partie-ci, j'aurai quelques bonnes nouvelles, selon ce qui a été annoncé par le ministre de Finances. Donc, ils ont décidé d'augmenter le RAP, régime accès à la propriétaire, de 35 000 à 60 000. Ce qui veut dire, les gens qui veulent acheter leur première maison, ils pourraient auparavant retirer 35 000 sans avoir des conséquences fiscales. Pour faire la mise pour l'achat de première propriétaire. Maintenant, ce montant-là a été monté à 60. Donc, c'est pour donner certains incitatifs pour le marché immobilier.
Parce que pour l'instant, ce marché est stagnant un peu, c'est ça?
Mais surtout avec le taux d'intérêt aussi haut.
Ah oui.
Donc, et non pas encore baissé ce mercredi lorsque la Banque du Canada a annoncé les taux. Donc, ils ont gardé toujours le même. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, que les taux n'ont pas augmenté, mais ils n'ont pas baissé. Alors, parfait. Cette incitative pourrait peut-être donner certaines motivations à certains gens. Donc, ça vaut la peine de toujours contribuer dans le REER, parce que maintenant, avec 60 000 $ pour chaque personne, donc ça fait des sommes considérables pour pouvoir faire la mise l'achat de première maison.
Oui, c'est une très très bonne nouvelle, Ali. Merci d'avoir partagé avec nous cette nouvelle. Nous espérons, enfin tout le monde espère que cette augmentation puisse participer à une sorte d'augmentation en parallèle d'achats et d'activités économiques dans ce secteur.
Oui, et il faut aussi mentionner que le CELIAP, ça existe toujours. Donc, il y a un montant de 40 000 $ que les gens peuvent contribuer dans le CELIAP. Donc, l'ensemble, ça fait 100 000. Et que c'est un montant considérable pour faire la mise. Et le 40 000, c'est 8 000 $ par année pendant 5 ans. Et qu'on a une période de 15 ans pour pouvoir l'utiliser pour faire l'achat de la première maison. Donc, cette augmentation, j'imagine que ça pourrait donner certaines vigueur au marché et que les gens pourraient peut-être penser encore davantage de faire les contributions dans leur REER pour avoir accumulé suffisamment pour leur retraite.
Oui, alors je regarde le visage de Lysandre. Il est pensif et il pense à l'achat de sa première maison avec la situation favorable que tu viens de décrire. Et puis toi-même, peut-être Ali, ça va t'inciter à toi-même d'acheter.
Oh, je me suis débarrassé de mon appartement. Je l'ai vendu avant Covid.
C'est vrai. Et puis c'est pas ta première maison. Alors c'est pas considéré comme la première maison. Mais j'ose espérer que pour Lysandre, ça va être la première maison. Donc voilà. Alors après cette bonne nouvelle, est-ce que
il y a aussi un autre changement, qui concerne la période d'amortisation. Auparavant, il était 25 ans et il a augmenté à 30 ans. Donc, ce qui pourrait baisser les paiements mensuels pour les hypothèques. Donc, aussi, ça, c'était une importante changement qui vient d'être apporté aux lois des hypothèques. Et alors, les gens pouvaient avoir, avec le 5% de mise, augmenter la période d'amortisation jusqu'à 30 ans. Donc, ça, c'est à cette période où les taux d'intérêt sont aussi hauts. Donc, ça pourrait avoir des conséquences positives pour le marché immobilier.
Sans doute, cet amortissement va contribuer à rendre cette activité encore plus, on va dire, plus intéressante. Et dans l'ensemble, donc, tu prévois une sorte de reprise d'activité économique et donc la sortie de cette espèce d'ambiance un peu morose économiquement?
J'espère, sûrement ça pourrait avoir des conséquences positives. Et puis c'est toujours bon pour les gens qui veulent accumuler des fonds pour l'achat de première maison, de le mettre d'abord dans le CELIAP, parce que lorsqu'ils le retirent, ils ne sont pas obligés de le rembourser. Donc il peut être déduit pour l'achat. Mais le REER, ça devrait toujours rembourser dans le REER pendant les 15 ans prochains.
D'accord.
Et la contribution, je veux dire le remboursement, ça a été retardé de 5 ans. Auparavant, c'était après 2 ans qu'ils devraient commencer à rembourser le REER. Mais maintenant, c'est rendu à 5 ans. Donc, lorsque les gens ils le retirent, ils ont 5 ans à commencer le remboursement de le REER.
D'accord. Tout ça, vraiment, ce sont de très bonnes nouvelles. J'espère que nos auditeurs et auditrices apprécieront. Je rappelle que Ali Pagneja est conseiller en sécurité financière depuis 1990. Aujourd'hui, je parlais de Chateaubriand dans mon cours. Et donc, je rappelais sa date de naissance. Et c'était 1700 et quelques. Donc, voilà. Donc, ne t'inquiète pas, on en est loin. Pardon.
Je me sens déjà à même âge que...
Oui, de toute façon, on n'y peut rien, c'est le temps qui passe. Donc, il est en parallèle courtier hypothécaire et surtout, il s'intéresse également à la philosophie. Il a fait des études de philosophie à l'UQAM. Donc, il est expert en chef des rubriques en finance et en philosophie dans cette émission, et donc nous pourrions toujours, moi compris, l'atteindre, l'appeler au 514-296-9071, 514-296-9071. Alors Ali, j'imagine que tu as d'autres choses à ajouter.
Pour l'instant, je crois que je pourrais juste résumer avec ces quelques nouvelles, certains changements qui sont des changements quand même importants. Et que bon, les bases de la finance personnelle, ça reste toujours le même. Essayer de garder une réserve liquide de 3 à 6 mois de ses dépenses. Donc, quoi qu'il arrive, on aura suffisamment de réserve pour pouvoir continuer nos vies. Donc, c'est très important pour avoir ce genre de buffer qui pourrait stabiliser les situation financière.
Donc rappelle-nous, on a deux choses. RAP, c'est régime
d'accès à la propriétaire.
À la propriété, oui. Et puis CELIAP.
CELIAP, tu sais que toujours les sigles, acronymes français sont beaucoup plus longs que celles des anglais.
Mais
donc compte d'épargne libre d'impôt pour achat de première maison.
Absolument.
En anglais, qui est First Home Savings Account, FHSA, First Home Savings Account.
Oui, alors comme nous ne faisons pas de promotion de la langue anglaise dans cette émission, nous allons nous en tenir à l'acronyme à la française, donc CELIAP. Merci Ali pour ces nouvelles, les bonnes nouvelles économiques qui vont sans doute énergiser les esprits et les décisions pour qu'il y ait plus d'achats et plus d'activités économiques dans notre ville. D'écouter les chansons d'Axel Red, la chanteuse belge, avec ce titre hautement parlant, sensualité. J'espère que cette sensualité donnera également des activités à tout le monde, y compris les activités économiques dont on vient de parler. Et tout à l'heure, Ali, en écoutant la chanson, j'étais en train de vérifier aussi la température. Tu as raison, il va y avoir une forte baisse en quelques heures de la température. Et pour demain, on a prévu une température entre 9 et 4 degrés et une journée pluvieuse.
Bon, on est à Montréal et apparemment, absolument, la température va nous rappeler qu'on est au mois d'avril.
C'est ça, et le mois d'avril va continuer, peut-être sans neige, mais il y a des aléas auxquels il faut faire face, y compris le port de parapluies. Voilà. Alors, donc, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre émission, portant sur la philosophie. Alors, pour cette cinquième saison, nous avons, Ali et moi, choisi de vous parler de l'histoire dans ses aspects à la fois intéressants, contradictoires, mystérieux, et de vous parler des historiens, de ceux qui ont marqué l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une discipline qui s'appelle l'histoire. La semaine dernière, nous avons parlé entre autres de Arnold Toynbee, un historien britannique qui est décédé en 1975, et il est célèbre pour les 12 volumes de son histoire, donc étude de l'histoire, ou Study of History, et qui a été publié entre 1934 et 1961. Et sa théorie générale de l'histoire est basée sur l'histoire de la civilisation et ses différentes facettes. Donc voilà, donc nous allons continuer cet historien, ses théories, et probablement un autre historien, Ali, n'est-ce pas, dont on va parler aujourd'hui aussi.
Oui, je vais juste ajouter un petit peu. La semaine dernière, on avait parlé de Spengler, Oswald Spengler.
Ah oui, on n'avait pas parlé de Toynbee.
On va parler de Toynbee aujourd'hui.
Ah, très bien.
Alors, oui. Il y a certaines ressemblances entre les deux, d'ailleurs, dans le sens que les deux, ils pensent à un mouvement cyclique de l'histoire. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de parler de ces deux, peut-être historiens l'un après l'autre.
Absolument. Il est comparable, son approche est comparable avec Oswald Spengler dans l'idée du déclin de l'Occident aussi.
Oui, tous les deux, ils pensent que certains mouvements organiques pourraient expliquer le démarche de l'histoire, les démarches des civilisations. Donc, juste pour rappeler à ce qu'on avait dit à propos de Spengler, on pourrait juste brièvement dire ce qu'on avait répété la semaine dernière. Je veux dire, il pense à un mouvement cyclique de l'histoire. Et il pense que la civilisation occidentale, c'est faustienne dans le sens qu'il y a une quête incessante pour une connaissance illimitée. Donc cette quête de connaissance est une qualité représentant la culture et la civilisation occidentale. Il est d'ailleurs pessimiste, donc il pense que la civilisation occidentale est rentrée dans la phase hivernale et que cette vision cyclique est dans certains sens, il est un peu fataliste. Donc, il pense qu'il n'y a pas de recours. Donc, le déclin, c'est inévitable. Donc, cette inévitabilité, d'ailleurs, c'est un aspect important de sa vision de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut faire la distinction entre Spengler et Toynbee. Et puis, il pense aussi à une âme civilisationnelle. On parle de âme civilisationnelle, ça nous fait rappeler de Hegel, c'est une Zeitgeist, donc un esprit du temps. Donc, il pense toujours que les civilisations ont certaines âmes, certains esprits qui conduisent son développement. Et puis, il est aussi critique de la démocratie et critique de la technologie. Ce sont les deux aspects peut-être un peu controversés de l'aspect de la pensée de Spengler.
D'accord, donc tu as bien effectivement repris les idées dont on a parlé de Spengler, comme à la fin de l'émission de la semaine dernière, on avait parlé de Toynbee. Moi, j'avais raté cette espèce d'espace consacré à Spengler. Donc, s'il faut résumer ses idées, il croit en mouvement cyclique, en la civilisation faustienne, qui qualifie, dont il donne comme caractéristique à la civilisation occidentale. Ensuite, son pessimisme, l'entrée en phase hivernale de l'histoire, son côté fataliste. Et puis, il croit en une âme civilisationnelle. C'est intéressant de le voir. Il y a des ressemblances, certaines ressemblances avec les idées des penseurs du siècle des Lumières ou du XVIIIe siècle.
Oui, pour résumer, je veux dire, pour aller brièvement sur les key concepts ou les concepts clés de la pensée de Toynbee, parce qu'il y a des idées très intéressantes lui aussi. D'abord, il parle des défis et des réponses. Donc, la thèse centrale de Toynbee est que les civilisations naissent en réponse à une certaine des ensembles des défis. Donc, s'il arrive à pouvoir répondre à certains défis, donc ils vont survivre. Sinon, ils vont aller dans certains déclins. Et donc, il parle toujours des civilisations et non pas des nations et des ethnies. Et peut-être certaines historiennes et peut-être certains sociologues le critiquent pour avoir une approche trop englobisante plutôt qu'aller dans les détails et d'étudier les cas concrets. Donc, certaines, là, je veux dire, critiquent tous les deux à cause de leur pensée un peu spéculative.
Mmh. Trop théorique et pas trop concret.
Probablement, oui, c'était une des raisons. Alors, donc, il parle de croissance et d'éclat. Donc, les civilisations traversent à travers les cycles de croissance et de développement et finalement le déclin. Mais la différence entre ce que pensent Toynbee et Spengler, c'est que Toynbee, c'est peut-être un peu plus positif. Il pense plutôt aux agencements des peuples. Il pense à certaines capacités des minorités créatives qui pourraient changer le cours de l'histoire. À l'encontre de ce que pensait Spengler, qui était un peu plus fataliste. Donc, il pense que certaines minorités créatives peuvent fournir certaines réponses innovantes au défi qui permet à une civilisation de se développer et à surmonter, et peut-être même surmonter le déclin. Mmh. Alors, il parle aussi de mimesis, oui. Mmh. Donc, il parle de certains concepts, mimesis, ça veut dire de imiter ou de répéter, peut-être d'une manière caricaturale, certaines sociétés qui essaient d'imiter la réponse réussite des autres sociétés. Au lieu d'aller chercher des nouveaux solutions pour leurs problèmes, ils imitent d'une manière peut-être caricaturale la réussite des autres, donc c'est un aspect aussi important. Il parle des pannes et des désintégrations. Toynbee a identifié des schémas de rupture et de désintégration au sein des civilisations. Alors, ce sont les périodes qui sont caractérisées par la guerre, par des bouleversements sociaux, par le déclin général et une... je veux dire, le déclin général des cohésions morales et sociétales. Donc, ce sont les caractéristiques des moments de déclin. Il parle aussi d'une église universaliste. Donc, c'est au moment de déclin que les sociétés vont aller vers certaines credos, certaines spiritualités spiritualistes qui englobent toutes, donc, pour avoir une cohésion sociale. Donc, l'émergence des églises universelles, selon lui, c'est une des caractéristiques de moments de déclin. Mmh. Il parle aussi des deux prolétariats externes et internes. Ce sont les groupes, que ce soit externes ou internes, qui ont été soit marginalisés ou dominés et qui jouent, qui peuvent avoir des impacts importants sur l'effondrement des sociétés. Mmh. Et puis, il parle aussi, dans les moments de déclin civilisationnel, certains individus et certains groupes qui peuvent se retirer d'aller dans leur vie privée, de retirer de la société et de continuer une vie spirituelle et culturelle plus élevée. Et ce sont eux qui peuvent éventuellement jouer le rôle de ces minorités qui seront plus créatives et qui pourraient peut-être ramener des réponses, des solutions au déclin.
C'est intéressant tout ce que tu viens de dire et j'écoutais attentivement. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a des moments de crise dans les civilisations qui se traduisent par des espèces de ruptures. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Et puis cette imitation caricaturale dont tu as parlé. Est-ce que tu vois probablement, ou peut-être moi, de toute façon je le ressens à travers ce que tu dis, cette imitation pourrait concerner comme les pays qui veulent imiter la modernité sans avoir déployer des espèces de d'enracinement pour comprendre la teneur et le contenu philosophique de la modernité en passant par différentes phases de la modernité. Est-ce que on peut considérer, à ton avis, le passage à la modernité comme dans certains pays qui n'ont pas connu les changements de paradigme moderne dans leur pays comme une imitation caricaturale?
Je crois que c'est un excellent exemple à donner sans jamais tomber dans cet relativisme culturel qui pourrait qui permet à tout le monde d'avoir leur propre valeur sans avoir respect pour droit universel des êtres humains, de ne pas dire droit de l'homme. Alors je crois que c'est un bon exemple, mais tout en même temps de tenir en esprit que certaines sociétés, certains gouvernements ne peuvent pas utiliser ce genre de contexte comme prétexte pour imposer leurs valeurs à eux. Ce qu'on voit par exemple dans les sociétés musulmanes d'aujourd'hui, qu'on voit très facilement en Iran, certaines, oui. Qui n'ont aucun respect pour la universalité de droit de la personne, et tout en usant cet relativisme culturel comme un prétexte.
Oui, alors ça, c'est les gouvernements et les régimes, c'est un aspect, mais moi je pensais plutôt à la mentalité ambiante. Par exemple, je vois dans le multiculturalisme le risque de ne pas saisir un certain nombre de valeurs modernes. Par exemple, venant des gens qui viennent d'autres horizons, par exemple, ici, et puis ne pas pouvoir saisir l'importance de ces valeurs et ne pas les comprendre et continuer à vivre selon les schémas établis de ces traditions, entre guillemets, qui n'ont pas connu la modernité. C'est un autre exemple, une autre facette
sûrement.
De la question.
Oui, tu viens de parler de multiculturalisme aussi, c'est un respect de nos différences, mais il faudrait toujours
se baser sur les valeurs communes.
Certaines valeurs communes. Donc on ne peut pas aller du genre de multiculturalisme qui ne connaît aucune base fondamentale commune qu'on devrait tous respecter.
Exactement. Tout en respectant les spécificités culturelles de chaque culture, chaque civilisation, dans un moment donné, il faut se mettre d'accord sur les valeurs communes pour pouvoir avancer. Il y a d'autres choses
D'autres choses, peut-être.
En une minute.
Dans une minute, je crois qu'on a plus ou moins couvert certaines différences et certaines caractéristiques de la pensée de
Toynbee. Oui.
Et on pourrait toujours en parler. Il y a un sujet que peut-être on pourrait élaborer là-dessus à un moment donné sur l'agencement et la structure, l'impact de chacun. Lorsqu'il parle des minorités qui peuvent avoir des impacts très importants, est-ce que ce sont les minorités qui changent le contexte social ou bien c'est un contexte social qui a été changé qui permet à certaines minorités d'émerger là-dedans
et de pouvoir s'exprimer et participer au changement? Vaste sujet, bien entendu, on va effectivement s'y préparer.
Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. six femmes quand t'es mort. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
Les yeux revolver, une chanson très intéressante et puis très célèbre qui a fait beaucoup de succès quand il est sorti dans les années, début des années, je pense fin des années 90, début des années 2000, si ma mémoire est bonne, de Marc Lavoine. Et Ali, pendant la chanson, j'étais toujours absorbé, j'étais toujours en train de réviser les idées de Toynbee sur les civilisations, et puis faire la connexion entre le contexte dans lequel nous vivons, c'est-à-dire Montréal, qui est une ville qui embrasse énormément de cultures. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de penser que il faut beaucoup de caractéristiques pour que une vie multiculturelle puisse survivre et puisse se développer. Effectivement, les valeurs communes, mais aussi la tolérance vis-à-vis des différences. Et ce sont des choses, des vertus qui peuvent constituer une bonne gouvernance pour les sociétés modernes.
Et voilà, peut-être à un moment donné, on pourrait parler de l'âge séculier, l'âge au sein de laquelle il y a une multitude des croyances, des gens qui croient en Dieu, des gens qui sont athées, des gens qui sont contre la religion. Et dans une société où tout le monde peut vivre
en paix.
En paix.
Tout en respectant.
C'est
absolument.
C'est important.
Absolument.
Alors, on va rentrer dans la troisième partie de notre émission, là où on va parler de la littérature. Dans cette partie, Amit Nejat, qui est professeur de la langue et la littérature française, Collège La Salle, et il a fait des études approfondies et qui fait toujours des recherches sur la religion et la modernité à l'Université de Montréal. Il va nous parler dans cette saison, il va nous parler des lauréats de prix Nobel de la littérature. On avait déjà parlé de certaines. Alors, de qui est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, Amit?
Alors, après avoir parlé d'Annie Ernaux, de Naguib Mahfouz, et d'une lauréate, encore une fois, de littérature, de prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk. Son nom est un peu difficile à prononcer. Aujourd'hui, nous allons nous envoler vers les horizons entre l'Orient et l'Occident, vers la Turquie. La Turquie, qui effectivement se situe à la frontière entre l'Orient et l'Occident, certains considèrent ce pays comme étant la jonction de deux civilisations. On parlait tout à l'heure de civilisation occidentale et civilisation orientale, parce que En son temps, la Turquie fut marquée par cet empire qu'il constituait, l'Empire ottoman, et tous les aléas qu'on peut effectivement y prêter. Et j'en profite parce que tout à l'heure, au début de notre émission « Quoi de neuf ?», j'avais pensé à le mentionner, mais j'avais complètement oublié que, en fait, il y a deux jours, la communauté musulmane fêtait la fin de Ramadan. Et donc, nous mentionnons toutes les croyances et nous sommes pour la valorisation des traditions à la fois modernes et des traditions qui sont marquées par différentes religions. Et comme nous allons parler de la Turquie, qui est un pays musulman qui a fêté amplement effectivement la fin du Ramadan, je profite avant d'entrer en détail pour cet écrivain prix Nobel de littérature qui s'appelle Orhan Pamuk, donc de féliciter et de présenter nos meilleurs vœux pour la fin du Ramadan, pour les croyants et les pratiquants de ce mois de jeûne. Alors, Orhan Pamuk, c'est un écrivain turc né en 1952. Et il n'est pas très très vieux. Il est encore, je le dis parce que quand je me compare, il y a un adage qui dit quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Donc voilà. Donc quand je me compare à Orhan Pamuk qui est né en 1952, donc je me console en disant voilà, je ne suis pas encore entré dans un grand âge. Donc il est né bien sûr à Istanbul. Et il a reçu son prix Nobel de littérature en 2006. Alors, entre-temps, quelques points biographiques sur lui. D'abord, c'est le premier et le dernier jusqu'à présent écrivain turc à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Il est originaire d'une famille cultivée de bourgeoisie d'Istanbul. D'ailleurs, il écrit beaucoup sur Istanbul parce que c'est une ville qui l'a marqué, comme bon nombre d'écrivains qu'on peut nommer, qui ont voué une sorte de vraiment vénération à leur ville natale. Il est d'abord attiré par la peinture, le journalisme, et finalement, il va se diriger vers la littérature et il va se consacrer entièrement à l'écriture. Le premier roman, il le publie en 1982. C'est un roman inspiré de son histoire familiale. C'est presque autobiographique et qui s'appelle Sevdet Bey et ses fils. Donc, il va publier en 1983, un an plus tard, un livre qui va faire un grand succès qui s'intitule Le Château Blanc. Grâce à ce livre, il va avoir une sorte de renommée internationale, une reconnaissance dans les milieux littéraires. Et donc à partir de là, sa carrière est lancée. Il va ensuite enchaîner succès après succès avec, entre autres, le livre Noir en 1990, Mon nom est rouge en 1998, Neige en 2002, Le musée de l'innocence en 2008 et enfin Cette chose étrange en moi en 2014. Donc il publie également plusieurs ouvrages sur sa ville natale, sur Istanbul, et un livre de souvenirs intitulé « D'autres couleurs » en 2011. Alors, il faut savoir que Orhan Pamuk a traduit... a été traduit, donc est traduit dans plus de 60 langues, et c'est grâce à ces traductions qu'il a eu cette réputation, cette renommée internationale, parce que lui, il écrit en turc dans sa langue maternelle, et ensuite il y a effectivement différentes traductions en 60 langues qui le rendent célèbre. Il obtient de nombreux prix littéraires. Et donc, de ce fait, il est l'écrivain turc le plus célèbre également au monde. Il obtient en 2012 les insignes du chevalier de la Légion d'honneur des mains du ministre de la Culture en France. Alors, parallèlement à sa carrière littéraire, comme c'est un libre penseur, c'est un penseur et c'est un littérateur qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est le cas de le dire, il prend position en faveur, enfin contre le gouvernement turc en dénonçant le génocide arménien que différents gouvernements de la Turquie refusent d'admettre. Et de ce fait, il a eu des démêlés, des problèmes avec la justice turque. Alors, c'est-à-dire il a été mis en examen, il a eu un procès au tribunal, et pendant ce temps-là, il y a eu un certain nombre d'écrivains très célèbres, dont Umberto Eco, qui prennent position pour l'écrivain et pour la liberté d'expression et d'opinion, et demandent qu'on arrête ce harcèlement médiatique et juridique contre l'écrivain turc. Donc Pamuk est aussi un écrivain qui utilise la mélancolie et ses sentiments contradictoires, à l'instar de Chateaubriand dans René ou Atala, où il, effectivement, dans une sorte de prose poétique, il va utiliser ses sentiments pour développer des trames narratives et de créer des personnages caractérisés par ce genre de sentiments de mal-vivre, de tristesse et de mélancolie. Mais parallèlement, un autre thème est très très cher à cet écrivain, c'est le thème, tout à l'heure on parlait, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un rapport. Donc ce thème, c'est le thème des rapports entre l'Orient et l'Occident. Il est effectivement toujours nostalgique d'une époque où les traditions avaient une certaine valeur éthique et morale. Et il est aussi nostalgique d'une modernité qui n'est toujours pas là au rendez-vous pour pouvoir amplement voir ses idées et ses valeurs se cristalliser dans son pays. Donc ce sont des types de penseurs qui restent toujours nostalgiques, qui restent toujours insatisfaits dont les romans sont marqués. Et en même temps, ce sont des penseurs qui avancent, qui nous donnent cette envie de lire. J'ai choisi cet écrivain turc, et en parallèle, je vais y revenir, je vais y venir après te donner quelques moments peut-être de questions ou de remarques ou de commentaires sur une autre écrivaine, cette fois-ci une écrivaine turque, Elif Shafak, qui en parallèle, elle n'a pas encore obtenu le prix Nobel de littérature bien entendu, mais c'est un écrivain, c'est une écrivaine que je connais bien, et donc j'ai lu notamment le fameux livre Soufi, mon amour, mais j'y viendrai tout à l'heure.
Oui, tu as parlé de... Elle n'a pas encore pris le prix Nobel. Elle n'a pas encore. Alors, j'ai entendu que la Radio Centre-Ville a décidé de décerner un prix littéraire, donc éventuellement, peut-être, c'est ici qu'on va lui décerner un prix littéraire.
Absolument.
Mais tu viens de parler d'une des thèmes, l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, j'ai vécu en Istanbul pendant un an, en 84.
Oui, j'attendais que tu évoques cette période, oui.
Et on ne peut pas vivre là-bas et non pas percevoir cet amalgame de l'Orient et l'Occident, en Istanbul surtout. Mm-hmm. Là, on voit l'église byzance qui a été prise par l'islam. Donc, on voit la structure, la architecture, en même temps la présence de l'islam. Donc, on sent vraiment l'Orient et l'Occident au sein du... Et d'ailleurs, c'est un pays qui était divisé entre l'Europe et l'Asie.
Oui, et aujourd'hui, bien que la Turquie ait demandé son intégration au sein de l'Union européenne, c'est une discussion qui continue et qui divise effectivement les autres pays européens pour lui donner ce statut. Mais effectivement, par caractère géographique et historique, la civilisation dont on parlait, j'imagine, Et donc, ce sont des caractéristiques de parfois des pays qui sont très 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 marqués par ce genre de dichotomie. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vite dire quelques mots sur Elif Shafak. Il est né en 1971, donc encore plus jeune. Et puis, il est né à Strasbourg. Sa mère était diplomate. De ce fait, elle a beaucoup voyagé. Mais contrairement à Orhan Pamuk, elle écrit ses romans en turc et en anglais. Donc, c'est une romancière qui actuellement travaille et vit à Londres. C'est une best-seller en Turquie, mais aussi en dehors de la Turquie. Ses romans sont traduits dans plusieurs dizaines de langues. Elle écrit ses romans, comme je viens de le dire, à la fois en turc et en anglais. Mais elle mêle les traditions romanesques occidentales et orientales, comme on peut s'y attendre, parce que c'est toujours un mélange entre les deux. C'est une femme engagée, en plus, cosmopolite, humaniste et féministe. Et elle s'intéresse également, en parallèle, effectivement, à la religion, mais à l'aspect ésotérique de la religion, c'est-à-dire au soufisme. Son livre « Soufi, mon amour », sorti en 2009, est une remarquable œuvre donc romanesque. C'est la vie romancée de Rumi et de Shams, son maître spirituel, mise en parallèle avec une histoire d'amour contemporaine. Le point commun avec Pamuk, c'est bien sûr Istanbul. Tous les deux ont écrit des livres et des passages magnifiques sur Istanbul. Et elle a fait également, donc Elif Shafak a fait également des études en sciences politiques et, chose révélatrice, sa thèse s'intitule « La modernité turque » et donc ses différents aspects. Pour finir, quelques titres qu'elle a publiés, « Les Noirs » en 2009, « Trois filles d'Ève » en 2018, Soufi, mon amour, en 2009, dont je recommande la lecture à tous nos auditeurs et auditrices, parce que c'est un livre vraiment magnifique.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. Du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris. Ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, le Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise. Elle s'est fait prendre, elle est prise. Elle va mourir, quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. C'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des arts.
Cette rubrique de littérature est consacrée au lauréat de prix Nobel de littérature. Nous venons d'entendre la chanson d'Alain Souchon, Rive Gauche, là où il parle d'une autre ville qu'il aime, Paris, et que Ali et moi, nous avons eu l'occasion de visiter de nombreuses fois. Alors, si on met en parallèle la Turquie, c'est-à-dire Istanbul, cette ville magique que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, et Paris, on voit une sorte de ressemblance nostalgique dans la voix d'Alain Souchon, ainsi que dans les œuvres de Orhan Pamuk et puis Elif Shafak, qui a une âme enchantée et spirituelle. Et donc, en mettant en parallèle ces deux écrivains turcs, je voudrais rendre hommage aux écrivains qui sont moins cités. Et bien malgré leur mérite littéraire, et leur donner une sorte de parole. Ali, tu as tout à l'heure fait allusion à une possibilité de création d'un prix littéraire par Radio Centre-Ville. Nous lançons à nouveau cette proposition à la direction. Ça serait bien qu'on puisse décerner chaque année un livre marquant, décerner un prix, pardon, un prix à un livre ou à un auteur ou une autrice. Et donc, nous lançons cette proposition, et Ali et moi, nous prendrons la responsabilité de l'organiser. Si jamais la direction est inquiète par rapport à l'organisation d'un tel prix, qui effectivement peut être un bon événement pour la vie culturelle et aussi pour notre émission.
Voilà, alors je m'engage aussi de appuyer cette proposition. Alors merci Amit pour cette chronique très enrichissante, comme d'habitude, sur les œuvres de Orhan Pamuk, aussi bien Eli Shafak. Alors on rentre presque vers la fin de notre émission. Alors je veux toujours remercier...
Deuxième génération d'immigrants, êtes-vous là? Où êtes-vous? Terre d'origine ou terre d'accueil? Edna Rencontre vous invite à chaque samedi de 21h à 22h à identifier avec ses invités les dualités conscientes ou inconscientes qui habitent la deuxième génération d'immigrants. C'est une rencontre de soi et des autres pour repousser nos limites, découvrir de nouveaux horizons et voir autrement. Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour triompher.
Conversa Fiada com Elizabeth Martins Carreiro
e Paulo Lourenço.
Convidados, discos pedidos, cultura
e a rúbrica sobre queijo e vinho.
Todas as sextas-feiras,
das 18 às 20 horas,
na Rádio Centre-Ville 102.3 FM.
Today I saw three neighbors. 17 people at the coffee shop, 26 colleagues, 35 pedestrians on the sidewalk, and 68 people at the grocery store. And right now, I'm looking at my girlfriend and son, and I've never felt so alone.
When you're not doing well, you can really feel alone, even with people around. To get help, call Info Social 811 or visit quebec.ca/mental health. A message from the gouvernement du Québec.
Soy Luzma Ortega, la brujita del amor. Te espero cada martes de 9:30 a 10:30 por el 102.3 de FM en tu programa Un Sendero de Luz, donde te conectarás con la mejor energía. Escucharás horóscopos, tips y temas interesantes. No te lo pierdas. Luzma Ortega, Un Sendero de Luz.
¿Quieres una lectura de cartas personalizada? Búscame en el 514-710-6558. Boutique Esotérica Un Sendero de Luz.
Tu bandera es la humildad, tu escudo es la lealtad. Nos sentimos satisfechos, mucha confianza nos das. Si estamos desesperados, te buscamos.
Radio Centreville, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. 102.3 FM.